Le débat africain. Alain Foucault.
Dans l'emballement, l'urgence sanitaire liée au Covid-19, elles ont été bousculées, leurs marchandises renversées. Certains ont même été violentés par des forces de l'ordre souvent zélées. Leur activité a arrêté pendant de longues semaines de confinement. Beaucoup ont perdu leur fonds de commerce. Maintenant que, Dieu merci, la pandémie n'a pas entraîné l'apocalypse que les spécialistes prédisaient pour l'Afrique, comment faire pour repartir dans ces affaires de ces hommes et femmes très souvent dans l'informel qui n'ont pas toujours accès aux aides très ciblées que proposent certains gouvernements? Comment relancer les très petites entreprises et les moyennes entreprises, poumons des économies africaines, qui très souvent n'ont même pas accès aux banques? C'est le pari de l'après-Covid-19 qu'il faut absolument gagner pour éviter une crise économique particulièrement dramatique. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à ces hommes et femmes patrons de petites et moyennes entreprises, souvent dans l'informel. Comment procéder pour qu'ils ne disparaissent pas, qu'ils ne meurent pas après le passage du Covid-19? Plusieurs invités au téléphone dans quelques capitales subsahariennes. D'abord, Madame Rekia Madougou, ancien ministre de la Justice garde des Sceaux du Bénin. Elle est aujourd'hui, entre autres casquettes, conseillère spéciale du président de la République togolaise. Elle est également consultante internationale sur les questions de finances inclusives et de développement. Et elle a accompagné plusieurs pays africains dans la mise en place d'instruments spéciaux dédiés au financement de l'agriculture, de l'emploi, des jeunes, de l'autonomisation des femmes et de l'inclusion financière. Elle a organisé cette semaine un webinaire avec la participation de quelques chefs d'État et chefs d'entreprise sous le thème « Comment soutenir les TPE et PME dans un monde incertain ?» Elle est en direct de Lomé, la capitale togolaise. Bonjour Madame Rekia Madougou.
Bonjour Monsieur Foucault et bonjour aux spectateurs et auditeurs.
Second invité du débat africain aujourd'hui en direct de Conakry, la capitale guinéenne, Adama Cissé Bangoura, directrice générale de Kili Agrobusiness. Présidente de la CEFAD, la coopérative des femmes Amazon pour l'agriculture et le développement. Madame Adama Cissé Bangoura est également la coordinatrice nationale des Leader Women of Africa. Bonjour Madame Adama Cissé Bangoura.
Bonjour Monsieur Foucault et bonjour à toute la team de RFI.
Merci. Notre troisième invité en direct d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, est Monsieur Paul-Harry Etnard, le directeur général d'EcoBank pour la région UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africain. Bonjour Monsieur Paul-Harry Etnard.
Bonjour Monsieur Foucault.
Le débat d'Alain Foucault.
Alors, la plupart des Africains se souviennent et ont été choqués par les images des agents des forces de l'ordre qui, au moment de la grande alerte Covid-19, lorsque le gouvernement, les uns après les autres, décrétait le confinement, ont bastonné des femmes, écrasé la marchandise des vendeuses et même renversé les beignets de certaines de ces mamans sur le bord de la route. Si l'on pouvait admettre sur le moment l'idée du confinement, la violence de ces agents, on a un peu plus de mal à la comprendre. Mais près de 2 mois après, le Covid-19, à l'instar d'autres pandémies, a fait exploser le tissu économique et fragiliser davantage les plus vulnérables, notamment les acteurs de l'économie réelle en Afrique, le secteur informel, les très petites entreprises et les moyennes entreprises. Comment peuvent-elles repartir? Déjà, ont-elles les moyens de repartir, Madame Adama Cissé Bangoura? Vous qui les rencontrez et travaillez avec elles, notamment dans le domaine de l'agriculture, leur business a-t-il survécu à ce Covid-19?
Monsieur Alain Foucault, moi je voudrais que leur business n'a pas survécu. Par exemple, quand nous prenons le côté agricole, le problème de nos différents pays, c'est qu'ils n'ont pas pris des précautions parce que personne ne s'attendait à une telle catastrophe comme le Covid-19.
C'est clair.
Par exemple, toutes les femmes qui ont fait tous les secteurs agricoles chez nous ici, tous les produits sont pourris. Tous les maraîchers, les ananas, les bananes. Parce qu'il n'y avait pas de déplacement d'un point à un autre. Tous les produits qui devaient être exportés ou tous les produits qui devaient venir dans la capitale Conakry n'ont pas pu venir et c'est des produits périssables. Veut dire que nous avons tout perdu parce que j'y fais partie et j'en connais quelque chose. Nous avons tout perdu. C'est pourquoi nous voulons que l'État, que les États prennent conscience de ce qui s'est passé. Ils ont beaucoup fait, mais ce n'a pas été assez. C'est de créer des conditions pour que ce genre de problème n'arrive plus. Par exemple, de créer des chambres froides ou de créer une chaîne de valeur agricole qui pourra permettre aux petites et moyennes entreprises de pouvoir transformer leurs produits, dans ces cas comme ça.
Alors, on va en parler dans un instant. Alors, ces femmes qui n'ont plus rien, comment elles font alors? Comment elles vont s'en sortir?
Le gouvernement a promis de venir en aide à ces femmes. Le gouvernement guinéen, parce que je ne peux parler que du gouvernement guinéen, ils ont pris des décisions qu'ils vont venir en aide. Et vous savez que notre président, le professeur Alpha Condé, qui aime beaucoup à l'autonomisation de la femme, depuis qu'il est venu au pouvoir, il a beaucoup aidé les femmes. Et nous l'implorons pour cette fois-ci, son gouvernement et lui, de nous venir en aide pour ne pas que nous voyons nos différentes entreprises, nos petites entreprises mourir. Parce que s'il ne nous aide pas avec les partenaires des institutions, je te dirais que certaines entreprises ne vont plus survivre.
Alors, je suppose que c'est le cas aussi au Togo et dans la plupart des pays, Madame Rekia Madougou, vous qui êtes, on va dire, une militante de l'inclusion financière, vous avez vu ces femmes-là, comment elles repartent? Comment ça va se passer concrètement? Elles ont tout perdu, finalement.
En tout cas, si elles n'ont pas tout perdu, elles ont perdu beaucoup. Et elles ne sont pas les seules. On a l'écrasante majorité du tissu économique africain qui se retrouve dans l'informel. Mieux, c'est que 90% justement des unités commerciales qui composent les économies africaines, surtout au sud du Sahara, sont en définitive des très petites entreprises. Absolument. Et des PME. Donc je suis d'accord avec Madame Bangoura qu'il faut faire quelque chose. Et mieux, c'est que les plans d'urgence, les plans de relance qui sont élaborés ça et là dans nos pays africains doivent davantage tenir compte de cette qualité d'entrepreneurs, de ces entrepreneurs qui sont les plus nombreux, mais qui finalement, à la fin de la journée, ne sont pas dans une large mesure prise en compte dans les programmes macroéconomiques. C'est pour ça d'ailleurs que l'initiative de notre Think and Do Tank Team RM a été de remettre le débat au centre des TPE et des PME pour montrer que définitivement, si nous voulons doper nos économies en Afrique au sud du Sahara, il faut que nous regardions ces acteurs prépondérants, ces acteurs majeurs. Est-ce que vous savez que les trois quarts du territoire africain sont couverts par les institutions de microfinance? Ça veut dire qu'en face des
on va revenir dessus, mais j'ai envie qu'on fasse déjà un état des lieux. Là, il y a eu le Covid, ces femmes sont dans la détresse aujourd'hui. Est-ce que dans les banques où vous êtes, Monsieur Ednar, vous voyez également cette urgence, ces difficultés que rencontrent ces femmes-là et que font les banques avec elles aujourd'hui?
Le constat est préoccupant, qu'on soit dans la banque ou à l'extérieur de la banque. Je vais vous donner juste un exemple. À l'intérieur de la banque, aujourd'hui, si vous êtes une banque et que vous aviez des écoles privées comme clients, ces écoles privées n'ont pas eu de revenus depuis 3 mois parce que les écoles étaient fermées dans certains pays. Et donc, du coup, elles ne peuvent pas faire face à leurs engagements. Donc, on a une vraie préoccupation aussi bien au niveau du tissu économique informel qu'au niveau du tissu économique semi-formel. Et il faut apporter une réponse à toutes ces préoccupations qu'on a. Les schémas existants qui ont été mis en place, à mon avis, ont des limites.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que les banquiers que vous êtes n'êtes pas en retard ou... Est-ce qu'il n'y a pas eu une paresse de la part des banquiers en Afrique de se dire on va continuer avec les mêmes schémas qui ont été tracés ailleurs et qui ne correspondent pas à la réalité africaine? Le secteur informel représente quand même 90% des unités commerciales, soit environ 75% de la population active. Est-ce que les banques ne devraient pas s'interroger sur la méthode africaine?
Ma réponse est de nature à provoquer, va vous étonner. J'ai envie de vous dire oui. Les banques n'ont pas réussi aujourd'hui à trouver la réponse par rapport à la problématique des PME et du tissu informel en Afrique. Et c'est pour ça que moi je suis un de ceux qui prônent un vrai Yalta de la finance, où les banques, les instituts de microfinance et le secteur public, ainsi que les instituts de financement du développement, doivent se mettre ensemble et réfléchir de nouveau à comment est-ce qu'on règle le problème du financement du secteur informel.
Ça doit se passer comment? Qui doit décider de cela? Parce que il faut pas qu'on soit dans les yakas, il faut qu'on commence à mettre des doigts sur des choses concrètes.
Ça commence par des actions concrètes qui ont déjà commencé. On pense à, par exemple, à une idée. Je vais vous donner une idée pour moi qui est une idée simple mais révolutionnaire. Aujourd'hui, 90% de la population, 80% de la population africaine a accès à un téléphone. Si on veut réfléchir que pour pouvoir avoir accès à ces utilisateurs, il faut absolument que ces personnes se déplacent pour venir en banque, pour venir chercher du financement, on se trompe. Pourquoi on n'utiliserait pas le téléphone pour permettre aux banques de donner un certain nombre de crédits et de solutions de financières à ces personnes qui sont dans les villages, qui sont dans les milieux ruraux, et mettre en place des systèmes qui sont des systèmes de suivi pour leur permettre soit de rembourser ou permettre aux banques de surveiller que leur crédit est effectivement bien remboursé. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible. Au Ghana, ça existe. Au Rwanda, ça existe. En Afrique du Sud, ça existe. Il n'y a aucune raison pour que dans les pays francophones, on n'aille pas dans cette direction. Pour le faire, on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin que les opérateurs télécoms se mettent ensemble avec les banques. On a besoin de mécanismes de garantie avec l'aide des États et des instituts de financement de développement, la BAD, la BOAD, Proparco. Et à partir de là, on a une plateforme qui peut permettre demain, à ce que Mme Bangoura disait, que la maraîchère qui est dans le Fouta puisse avoir accès à du financement pour pouvoir faire de sa production agricole.
Mais est-ce que dans la banque aujourd'hui, on y pense? Est-ce que ce n'est pas une idée encore que l'on... On va dire que on réfléchit à ça, mais sans trop y croire.
Non, je peux parler pour EcoBank, je ne parle pas pour les autres. Nous, on y pense. 50% de mon temps aujourd'hui est de réfléchir à ce qu'on peut faire demain. Ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Et pour cela, on est déjà en train de travailler avec des opérateurs téléphoniques, on est déjà en train de travailler avec des instituts de financement du développement pour essayer de mettre en place la solution dont je viens de vous parler. Donc c'est quelque chose qui existe, qu'on a déjà fait dans des pays comme le Ghana. Il suffit de simplement le dupliquer dans les pays francophones.
Alors, c'est quand même grave lorsque l'on sait que 90% de ces unités commerciales n'ont pas accès au financement. Comment on fait pour qu'elles aient accès au financement, Madame Rekia Madougou?
Monsieur Etnar, pardon, mais les banques réfléchiront encore combien d'années? La question du financement des TPE reste très cruciale. Les banques, en tout cas, je me réjouis que des banques comme EcoBank, comme vient de nous le dire son directeur régional pour la zone UEMOA, se penchent sur la question. Mais il est question d'urgence. Nous parlons d'une pandémie qui sévit et qui menace...
Il s'agit de maintenant, maintenant.
Maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qui est faisable? Ce qui est faisable, ce n'est pas directement avec les banques. En revanche, les banques ont un rôle essentiel à jouer, à savoir, par exemple, le refinancement des institutions de microfinance. Et comme M. Etna l'a expliqué tout à l'heure, finalement, il s'agit d'une chaîne de financement qui lie à la fois les banques centrales en Afrique, les banques de développement, les banques commerciales, pour finir auprès des institutions de microfinance. Mais pour ce faire, il faudrait effectivement que les banques commerciales puissent elles-mêmes aussi obtenir des ressources pouvant permettre aux institutions de microfinance de proposer des produits financiers qui sont adaptés aux besoins justement de la petite coopérative, peut-être de 3 à 5 agricultrices ou agriculteurs qui se retrouvent dans le Fouta ou dans mon Bénin lointain, ou encore tout simplement mettre en place des mécanismes dans un partenariat public-privé entre les États, puisque justement on parle de Covid bond et autres, on parle d'appuis divers liés à la reprise, à la relance économique, mais justement il faudrait que toutes ces ressources qui sont en cours de mobilisation puissent servir fondamentalement à ce tissu économique prépondérant. Et c'est ça l'enjeu essentiel, parce que si nous continuons à opérer de la même façon, malheureusement, les mêmes causes produiront les mêmes effets.
Madame Bangoura, lorsque vous entendez tout ceci, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que ça suscite de l'espoir en vous? Et qu'est-ce que vous avez envie de proposer très concrètement?
Voilà. Moi, Monsieur Alain Foucault, le problème est beau d'entendre tous ceux qui se disent des banquiers, mais le problème chez nous ici, par exemple, quand tu prends le milieu agricole, nous, ce n'est pas facile d'avoir un crédit avec les banques parce qu'on ne tient pas compte des crédits fonciers. En Afrique, ce n'est pas tout le monde qui a des titres fonciers parce que les terrains que nous avons, c'est
pour
des
donner en garantie.
Qui appartiennent, voilà, qui appartiennent à nos arrière-grands-parents qui n'ont pas eu le temps de lotisser, de dire voilà le titre foncier. Ça, c'est un. De deux, le problème, ce n'est pas tout le monde qui peut monter un projet bancable. Les gens vers chez nous, ce n'est pas tous les jeunes ou les petites entreprises qui savent comment monter un projet bancable. Alors, il faut que les banques trouvent des solutions, hein, des solutions à court terme qui peuvent nous aider à rebondir. Mm-hmm. Il faut qu'ils mettent de l'argent et avec des faibles garanties, comme ce que dit le monsieur, s'ils envoient... la même chose qu'ils ont réussi en Afrique du Sud, ils ont réussi au Togo et ou au Nigeria, je ne sais pas. S'ils font la même chose en Afrique du Sud avec les petits planteurs, je pense que ça peut aller.
Mais pour l'instant, où est-ce que vous prenez votre financement?
Nous, c'est à partir de, par exemple, avec les coopératives, c'est à partir des petites cotisations.
Les microfinances, est-ce qu'elles vous accordent des crédits?
Oui, les microfinances nous financent. Les microfinances sont très bien implantées, ils nous financent.
Alors, on va être assez concret, assez efficace dans le même temps. Madame Madougou dit il faut qu'on accompagne ces microfinances, que les banques acceptent de financer ces microfinances. Qu'est-ce qui fait que ça bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on ait du mal à donner de l'argent à ces microfinances pour accompagner ces personnes qui sont dans la difficulté et qui sont des très petites entreprises, Monsieur Edna?
Non, c'est une question de volonté. Je pense que ces deux secteurs qui ont travaillé pendant longtemps dans des silos, moi je suis plutôt partisan pour qu'on rassemble tout le monde ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire un vrai Yalta de la finance où il y a les instituts de microfinance et les banques qui se mettent ensemble. Moi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je travaille avec plusieurs instituts de microfinance pour attaquer des segments de marché que je ne connais pas, qu'ils maîtrisent mieux que moi, que ce soit le secteur informel complètement en bas de la pyramide ou les TPE. Donc c'est en travaillant ensemble qu'on va y arriver. Donc moi je suis optimiste. Le diagnostic a été posé, il n'est pas bon. Maintenant, comme il y a une volonté, essayons de travailler dans cette volonté.
Madame Badougou, est-ce que vous êtes aussi optimiste que Monsieur Ednar? Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui travaillez dessus depuis si longtemps, que les volontés commencent à se manifester et qu'il y a des dirigeants qui sont sensibles à cela?
Les volontés commencent à se manifester jusqu'à ce que les États s'impliquent directement dans ce partenariat banque commerciale institution de microfinance. Et je m'en voudrais de ne pas insister que toutes les fois qu'il a fallu que les banques commerciales et les institutions de microfinance opèrent pour le bien des populations vulnérables, il a fallu que l'État joue son rôle d'intermédiation et aussi de stimulant. Et je m'en voudrais également de ne pas insister sur le fait que ce que dit M. Etna peut se réaliser, mais il faudrait que l'État joue son rôle. Je donne un exemple très concret. À la faveur de la création des fonds nationaux de microfinance ou d'inclusion financière, on a vu comment l'inclusion financière s'est dopée dans certains pays, comme le Bénin, le Togo, qui sont d'ailleurs les premiers maintenant en bout de chaîne, ou plutôt en tête de chaîne dans la zone UEMO en termes d'inclusion financière. Pour dire tout simplement que oui, il faut que les banques refinancent les institutions de microfinance, mais il faudrait que ce soit des ressources longues et à bon taux pour que le taux de sortie, parce que quand même l'intermédiation au niveau des institutions de microfinance coûte cher, mais il faudrait justement qu'on puisse trouver un arrangement institutionnel entre les banques commerciales, l'État, pour justement appuyer sur des instruments de bonification, de subvention et autres, parce qu'on est en situation d'urgence, ne l'oublions pas, et derrière les institutions de microfinance, pour qu'à la fin de la journée, on puisse avoir des produits et services qui sont adaptés à la clientèle, mais aussi au contexte de crise, pour que ces entreprises-là ne meurent pas. Il y a aussi le rôle essentiel de la Banque centrale, qui est le régulateur, mais qui a des normes prudentielles qui, aujourd'hui, freinent le développement de ces activités et de ce partenariat. Je donne un exemple très clair. Le ratio de capitalisation que la BCAO demande aux institutions de microfinance aujourd'hui est juste intenable pour 80% d'entre elles. Et donc, elles ne peuvent pas fondamentalement réagir quand il s'agit de répondre favorablement aux besoins des populations. Du coup, il est important qu'il y ait donc cette synergie dont parlait M. Etna au cœur du débat qui est celui de la résilience des très petites entreprises.
Alors, on va en parler dans un instant, puisque vous sortez d'un webinaire où il y avait quand même des personnalités et où des choses se sont dites sur ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Est-ce qu'il y a des choses très, très concrètes qui vont, par exemple, faire plaisir à Madame Bangoura qui attend des réponses immédiates à des questions immédiates? On en parle juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale dans la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite.
Le débat africain, Alain Foucault.
Comment peuvent-elles reprendre leurs activités après plus d'un mois d'arrêt imposé par l'urgence sanitaire? Surtout lorsque l'on sait qu'elles tiraient déjà le diable par la queue avant cet arrêt forcé et qu'elles n'ont très souvent pas de soutien des banques et des institutions administratives. Maintenant que l'apocalypse annoncée n'a pas eu lieu, Dieu merci, quelle stratégie pour relancer ces très petites entreprises et ces petites et moyennes entreprises qui constituent le cœur des économies africaines? Au-delà des grands discours de certains dirigeants sur les médias, que faire concrètement pour éviter que la tragédie que représentait le Covid-19 ne se réalise plutôt du côté de l'économie et du social? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain. Plusieurs invités au téléphone dans quelques capitales subsahariennes. D'abord, Madame Rekia Madougou, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux du Bénin. Elle est aujourd'hui, entre autres, casquette conseiller spécial du président de la République togolaise. Elle est également consultante internationale sur les questions de finances inclusives et de développement. Et elle a accompagné plusieurs pays africains dans la mise en place d'instruments spéciaux dédiés au financement de l'agriculture, de l'emploi, des jeunes, de l'autonomisation des femmes et de l'inclusion financière. Elle a organisé cette semaine un webinaire plutôt réussi avec la participation de quelques chefs d'État et de grands dirigeants d'entreprise sous le thème « Comment soutenir les TPE et PME dans un monde incertain ». Elle est en direct de Lomé, la capitale togolaise. Second invité du débat africain aujourd'hui en direct de Conakry, la capitale guinéenne, Adama Cissé Bangoura, directrice générale de Kili Agrobusiness, présidente de la CEFAD, la coopérative des femmes Amazon pour l'agriculture et le développement. Madame Adama Cissé Bangoura est également la coordinatrice nationale des leaders Women of Africa. Notre troisième invité, en direct d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, est Monsieur Paul-Harry Etnar, le directeur général d'Ecobank Région UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africain. Voilà pour notre plateau. Alors nous avons terminé la première partie de ce magazine en faisant un peu un état des lieux. Je souhaiterais que dans cette seconde partie, on soit très très concret pour que Madame Bangoura sache comment elle va parler aux agricultrices avec qui elle a des relations très très fortes et avec qui elle travaille. J'ai envie de me tourner d'abord vers elle. Madame Bangoura, qu'attendez-vous aujourd'hui pour relancer ces économies-là avec les petites et moyennes entreprises auxquelles vous appartenez?
Nous attendons un accompagnement ferme de tous les parts, du gouvernement, des partenaires, des banques et des crédits, des microcrédits. Nous voulons être comme nos sœurs qui sont dans les autres pays. Parce que ce Covid-19 a passé dans certains pays qui n'ont pas ressenti, avec les organisations mises en place, elles n'ont pas ressenti comme ce que nous avons ressenti. Par exemple, quand tu prends le Fouta aujourd'hui, la pomme de terre est en train de pourrir. Il a suffi que l'État prenne toute cette pomme de terre. L'État vient de l'annoncer qu'il prenne toute la production de la pomme de terre de cette année. S'il y avait des chambres froides, s'il y avait une vraie chaîne de valeur qui était mise en place, pour accompagner, il n'y aurait pas eu des gâchis comme ça. Alors, nous avons besoin d'accompagnement financier, technique.
Alors, quand vous dites technique, c'est quoi exactement?
Nous avons besoin des chambres froides. Nous avons besoin des petites machines de transformation. Tout ce que nous voulons n'est pas financier, mais nous avons besoin des machines qui peuvent transformer. Par exemple, moi qui produis la tomate, j'ai besoin des machines pour faire des machines en purée. Je transforme mes tomates en purée.
C'est ce qui est important, surtout quand on regarde quelle quantité de tomates on importe dans l'ensemble de ces pays-là, on se dit que c'est plutôt une bonne chose.
Si on avait ces petites machines, nos tomates, nos piments n'allaient pas pourrir.
Alors, Madame Rekia Madougou, vous venez de terminer un webinaire consacré justement à la stratégie pour soutenir ces très petites entreprises après le Covid. Webinaire qui était d'ailleurs présidé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Alors concrètement, qu'est-ce qui en sort? Est-ce que vous apportez des réponses aux attentes de Madame Bangoura?
Bien entendu, et je me réjouis d'ailleurs que le hasard ait fait que Madame Bangoura et Monsieur Etnar faisaient partie des illustres panélistes de ce débat très enrichissant. Mais pardonnez-moi, avant que de répondre à votre question, d'apporter un petit complément d'information à Madame Bangoura sur le besoin aujourd'hui qui se reflète de cette préoccupation. Il est vrai qu'on a beaucoup parlé de financement, mais il est important aujourd'hui de saisir l'opportunité de cette pandémie pour insister sur la nécessité de transformer notre agriculture en chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il faut désormais que la chaîne de valeur agricole puisse se parler avec la chaîne de valeur technique et la chaîne de valeur financière. En termes encore plus clairs, nos États ont tout à fait aujourd'hui l'obligation de se focaliser sur cette prééminence de l'agriculture pour que notre agriculture ne soit plus seulement une agriculture de subsistance, mais qu'elle soit une agriculture de valeur ajoutée et donc que la transformation puisse être intégrée. Il y a des expériences très réussies en Afrique, comme par exemple le mécanisme incitatif de financement agricole. basé sur le partage de risques au Togo. Et cela me permet de faire la transition sur l'une des décisions majeures du webinaire dont vous avez parlé tout à l'heure. Une revendication majeure ou une recommandation majeure de ce webinaire est autour justement de la priorisation de l'agriculture et que l'agriculture puisse désormais être considérée dans nos États comme la courroie charnière et qui peut être en mesure de créer beaucoup d'emplois. Mais pour ce faire, il faut trouver les mécanismes de partage de risques entre les différents partenaires pour que cette agriculture-là puisse à la fois nourrir l'Afrique, mais surtout que l'Afrique puisse transformer les produits issus de son agriculture. Deuxième élément essentiel qui est ressorti de ce webinaire, c'est la nécessité de considérer l'économie réelle comme en vérité l'économie qui doit alimenter les fonds de nos pays. Et je m'explique.
Rapidement, parce que là vous vous êtes éloigné de ma question, c'était que Mme Bangoura attend des réponses de vous, c'est très important ce que vous dites, mais elle comprendra que oui, l'agriculture c'est une priorité, il va falloir créer des chaînes de valeur. Quand et comment est-ce que les dirigeants que vous avez reçus ou bien la réunion à laquelle vous venez d'assister, ce webinaire, a apporté des réponses concrètes? Quand, comment, où, pourquoi?
Mais justement, non seulement elle a apporté des réponses concrètes, mais elle a apporté même sous forme de fondation et d'une activité de lobbying qui va s'en suivre. Et au-delà de ça, c'est qu'il faudrait que nous poursuivions le plaidoyer auprès des organisations qui sont impliquées dans le financement et aussi dans le déploiement technique autour de l'agriculture. Mais au-delà de ça, c'est que Mme Bangoura, en tant qu'actrice de ce secteur, doit aussi poursuivre avec nous, avec les États, avec les organisations concernées, ce plaidoyer pour que définitivement on puisse comprendre que la chaîne de valeur agricole est celle-là qui peut nourrir l'Afrique et qui peut participer au développement de l'Afrique. Pas seulement nous en plaindre, mais contribuer à la transformer, en fait.
Alors, Monsieur Ednar, on entend beaucoup ces derniers jours dire un peu partout en Afrique, dans les différents domaines, que ce Covid-19, s'il a bousculé les gens, il doit être aussi une opportunité peut-être pour les Africains, qu'on doit saisir cela comme une opportunité, un nouveau départ dans les différents domaines. Dans ces secteurs-là, comment peut-on en faire une opportunité? Est-ce que aujourd'hui le monde financier est prêt à se dire « on va travailler différemment, c'est un nouveau monde, c'est de nouveaux paradigmes ».
Oui, finalement, la pandémie nous force à réimaginer l'économie réelle africaine. Et deuxièmement, la pandémie nous force à réimaginer aussi le contrat social entre le gouvernement et ses citoyens, et les citoyens et le secteur privé. Réimaginer l'économie réelle, ça veut dire, et c'est le sujet qu'a posé Mme Bangoura, on sera obligé de mettre sur la table le débat sur la transformation endogène, interne de nos économies. Comment on peut faire pour que Mme Bangoura puisse, par exemple, transformer ses tomates? Et ça, pour le faire, il lui faut du financement. Pour qu'elle puisse avoir du financement, il faut que les banques disposent de plus de capitaux. Donc, revoir le rôle de tout ce qui est banque de développement et banque centrale. Et il faut que les banques aussi disposent de plus de mécanismes de garantie pour pouvoir apporter ce financement à l'économie réelle. Réimaginer le rôle du secteur privé, de l'État et des citoyens aussi, c'est pour moi la deuxième chose qu'on va devoir faire dans le monde d'après. Et ça, il faut le faire en réfléchissant à la formalisation, parce qu'il ne faut pas quand même qu'on se cache derrière l'arbre qui cache la forêt. On arrivera à avoir un secteur privé fort en Afrique le jour où on pourra formaliser le secteur informel.
Lorsqu'on dit qu'il faut formaliser le secteur informel, Mme Rekia Madougou, est-ce que ça vous paraît possible aujourd'hui en Afrique?
Non seulement c'est du domaine du possible, mais par contre, ce qu'il est important de savoir, c'est que cette formalisation du secteur informel ne peut pas se faire sans le secteur informel. Parce que malheureusement, ce à quoi nous assistons, c'est à des politiques publiques, ça et là, qui en vérité n'associent pas la formalisation. J'ai vu des expériences très heureuses, ça et là, qui tendaient à formaliser le secteur informel, ou par exemple, on invitait le secteur informel à venir s'enregistrer, même pour accéder à des facilités. Mais justement, ces opérations ont connu des fiascos. Je ne veux pas en nommer, mais j'en connais très bien sous mon nez. Mais pourquoi? Simplement parce que le secteur informel, n'ayant pas participé à l'élaboration de cette stratégie, a pensé que c'était une sorte d'appât pour les attirer et après les submerger de taxes et d'impôts, ce qui n'était même pas le cas dans ces opérations. Pour dire que concrètement, si on veut formaliser le secteur informel, encore qu'il y a tout hein, dans le secteur informel. Il y a même le semi-formel, il y a également des entreprises qui sont normalement formalisées, mais se cachent derrière des rideaux épais noirs. Mais pour dire que si on veut, disais-je, formaliser le secteur informel, un, on le fait avec le secteur informel, c'est-à-dire on les associe, on associe leurs représentants à la stratégie pour y parvenir. Deux, quand on veut implémenter la stratégie de formalisation, on passe justement par ce qui les intéresse en premier, à savoir le financement de leurs activités, le développement de leurs activités. Et ce n'est que comme ça qu'on réussira à les sortir,
de
l'informel. J'ai des exemples concrets en cela sur des programmes d'appui que nous avons appuyés, pardonnez la répétition, des pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin à mettre en œuvre. Et on a compris que les femmes et les jeunes gens qui étaient dans ces programmes-là se formalisaient très facilement et très rapidement dès lors qu'ils accédaient à des crédits, par exemple auprès des institutions de microfinance.
Alors, Madame Bangoura, vous imaginez l'ensemble des femmes avec qui vous travaillez sortir de l'informel pour accepter d'aller devant les autorités demain si on leur disait qu'on va leur apporter du financement?
Oui, elles sont prêtes à le faire parce qu'elles savent que nous ne pouvons rien faire sans l'aide de nos États, de nos partenaires.
Mais qu'est-ce qui bloque alors si elles le savent? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, que vous n'alliez pas vers les autorités pour devenir formelles, pour vous inscrire, pour devenir des entreprises comme les autres?
Vous savez, nous sommes inscrits, nous sommes des entreprises. Nous sommes des petites entreprises.
Et des très petites entreprises.
Voyez, des petites entreprises. Pour avoir des fonds, comme je vous avais dit, il faut avoir des garanties bancaires. Si nous n'avons pas des garanties bancaires, nous ne pouvons pas avoir des financements bancaires. C'est pourquoi on se tourne toujours vers les microcrédits. Parce qu'avec ces microcrédits, eux, ils peuvent nous crédire à petite échelle et que nous remboursons. Vous savez que les femmes sont plus fiables en crédit.
Oui, tout à fait. Elles sont plus solvables, oui. Elles payent mieux leur crédit, c'est vrai.
Elles payent les crédits. Ouais. Alors, mais vous savez, l'agriculture, pour le formaliser en réel, ça demande les grands moyens.
Est-ce que les banques ne devraient pas s'adapter à cela, M. Ednard, puisque vous avez des personnes qui remboursent leurs dettes, qui sont plus solvables en tout cas que ceux à qui vous prêtez de l'argent régulièrement? Est-ce que ce n'est pas une nouvelle relation à créer pour les banques?
Oui, M. Foucault, et c'est la lueur d'espoir dont je parlais un peu plus tôt. Pour pouvoir atteindre les populations, il aurait fallu normalement dans le passé créer des agences dans toutes les localités du pays. Aujourd'hui, avec le téléphone, je suis capable d'apporter du crédit à la femme qui est en train de cultiver ses tomates au fin fond du Fouta. Donc sur cette base-là, il faudrait utiliser le téléphone pour pouvoir déployer du crédit aux derniers utilisateurs. Des petits crédits, on parle de 25 000, de 50 000, de 100 000 francs CFA. Donc c'est avec ça qu'on va pouvoir. Oui, c'est avec ça qu'on va arriver à augmenter l'inclusion financière, qu'on va arriver à éduquer aussi financièrement toutes ces populations et qu'on va arriver aussi à formaliser. J'insiste beaucoup sur ça. Le jour où j'apporterai du crédit, je pourrai commencer à mieux comprendre comment se comportent tous ces clients. Et à partir de ça, on pourra les amener vers le secteur formel.
Madame Madougou, lorsqu'on écoute, on se dit on a fait l'état des lieux, on sait comment ça marche. Qu'est-ce qui fait que ça ne démarre pas? Qui doit donner le là? Qui doit faire que tous ces yaka, tout ce on pourrait deviennent réalité? Qu'est-ce qui manque, vous qui travaillez dessus depuis un certain temps?
Moi, je n'aime plus parler d'état des lieux parce que l'état des lieux, on l'a abondamment fait depuis des années, on l'a refait, on le connaît et on connaît d'ailleurs les pistes à emprunter. D'autant que certains pays qui ont emprunté ces pistes ont vu des lueurs d'espoir. Et donc, aujourd'hui, il est très clair que si nous voulons véritablement transformer nos économies structurellement en tenant compte de leur forme d'organisation, la solution, c'est d'aller vers les microfinances. Mais attention, c'est dans un processus d'intégration du tissu bancaire. C'est-à-dire que les microfinances ne sont pas à elles seules à même de répondre aux besoins des TPE. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est ce dont parlait M. Etna, c'est ce dont je parlais moi-même, c'est de créer justement ce link entre les banques commerciales, les banques de développement, la banque centrale qui a son rôle à jouer et les microfinances. Et pour être encore plus concrète, aujourd'hui, Madame Bangoura et ses coopératives ont la possibilité d'obtenir des crédits bancaires. Mais pour peu que, justement, les banques commerciales aujourd'hui soient en mesure de leur alléger les conditions d'accès. Que les banques commerciales, aujourd'hui, notamment sur la question de la garantie, puissent à avoir autant de flexibilité.
Mais monsieur Ednar est d'accord sur la question. Et nous, on a envie de savoir sur quel bouton on appuie pour que ça devienne réalité, pour que tout ce dont vous avez parlé devienne très, très concret. Parce qu'il ne faut pas qu'elle reparte en se disant, bon, on a parlé, mais on n'a pas la solution tout de suite. Qui il faut bousculer? Qui doit permettre que cela se fasse? C'est les chefs d'État, c'est qui?
Non, je pense que la question n'est plus tellement au niveau des chefs d'État. En tout cas, pas dans certains pays où les efforts ont été faits au niveau de l'État. Je reviens toujours au cas du Togo que je connais bien en ce moment, au cas du Bénin au moment où je le connaissais très bien, pour dire qu'au moment où l'État a actionné ses leviers, la question s'est résolue. J'insiste sur un exemple concret. Lorsque, par exemple, l'État, à un moment donné, a actionné les leviers de fonds de garantie, a actionné les leviers de subvention et de bonification de taux d'intérêt auprès d'un fonds national de microfinance, on a vu très rapidement que les banques commerciales ont mis en place ce qu'on appelait facilité crédit pour qu'en actionnant les garanties facilitées, favorisées par l'État et ses partenaires techniques et financiers internationaux, eh bien, on peut, ces banques commerciales-là, accompagner des entrepreneurs.
Donc, c'est une question de volonté politique, clairement.
Pas seulement.
Non, mais je veux dire, vous venez de dire quand l'État appuyait sur le bouton sur tel et tel autre sujet, ça a marché. Aujourd'hui, on a envie de dire qui appuie sur le bouton pour que l'on prenne en compte celle qui représente une grande partie de l'économie africaine dans la plupart de ces pays-là. Comment on fait fonctionner ces personnes qui sont dans l'informel pour qu'elles deviennent totalement productives et qu'elles rentrent dans le monde de la finance et dans le monde de l'économie réelle? C'est ça la question.
Monsieur Foucault, la question, elle est celle-là, bien entendu, mais on n'attend pas que le rôle de l'État, puisqu'on a vu des exemples où l'État a joué son rôle. On en connaît d'ailleurs en ce moment.
Donc c'est les banques mais alors qu'ils ne jouent pas leur rôle.
Où les banques, malheureusement, traînent les pas à entrer dans la dynamique. Bon, évidemment, qui dit banque dit mesure de précaution, de prudence, etc. C'est aussi dans leur nature, on ne peut pas le leur dénier. Sauf qu'à un moment donné, il faudrait effectivement voir le problème en face, se dire que nous sommes en train d'aller dans le mur et qu'il faut que chacun y mette du sien.
Alors, M. Ednar a dit qu'il va falloir que les banques s'interrogent, qu'il y ait une sorte de grenelle des banques pour pouvoir discuter de cela. Madame Bangoura, vous avez espoir?
Oui. Avec tout ce que je viens d'entendre des deux financiers, nous avons beaucoup d'espoir. Et ce que je voudrais dire à madame, c'est de chercher à recopier le modèle qui ont réussi dans les autres pays anglophones pour que nous répétons soit dans les pays francophones, surtout chez moi ici.
Chez vous en Guinée. Monsieur Ednar, on espère qu'il va rapidement y avoir cette rencontre entre les banquiers pour se dire on va repenser ça rapidement parce qu'il s'agit quand même d'une grande partie de l'économie africaine.
Oui, il ne faut pas que les banquiers, j'insiste beaucoup dessus, aujourd'hui on a une chance énorme qui n'existait pas il y a 10 ans, c'est les opérateurs téléphoniques qui permettent d'avoir accès à des populations auxquelles on n'avait pas accès il y a 10 ans. Et donc il faut que les opérateurs téléphoniques soient autour de la table, il faut que le secteur privé, les banques et les microfinances soient autour de la table. Et à partir de là, je pense que si tout le monde a la bonne volonté et l'envie de faire, parce que c'est vrai, je suis d'accord avec Madame Madjougou, c'est pas une question de volonté politique, c'est l'envie de faire, l'envie de comprendre que ce sujet dépasse uniquement des questions de profit ou des questions de protéger des parts de marché, mais c'est vraiment d'essayer de visualiser à quoi pourrait ressembler l'Afrique de demain avec un secteur informel qui devient vraiment participatif à l'économie. Si tout le monde a cette envie, moi je suis plutôt optimiste.
Alors soyons optimistes et espérons qu'après ce Covid-19, après ce que les gens ont vécu, ben les dirigeants, les banquiers, les opérateurs de téléphonie mobile et tous ceux qui travaillent dans l'inclusion financière vont se mettre ensemble pour pouvoir permettre à ce secteur qui est très important pour l'économie de s'en sortir, au moins de survivre. Merci à vous d'avoir accepté de participer à ce magazine. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delvin Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. Religion du monde.